ספר בראשית. C'est une paracha triste dans la mesure où il y a la disparition de Yaakov Avinu, il y a celle de Yosef, et après Yosef, il y a tous les frères qui vont mourir. C'est-à-dire, c'est une époque qui se termine. C'est une paracha effectivement un peu triste, et c'est pour ça qu'elle est stouma. Stouma, ça veut dire que si vous regardez dans Sefer Torah, et que vous lisez Vaïgash, la paracha la semaine dernière, vous arrivez à la fin de Vaïgash, et il n'y a pas d'espace. Le texte continue comme si on était resté dans Vaïgash, mais simplement, le texte continue, Vaï Yaakov, Vaïchi Yaakov, Beres Mitzrayim, Shevash Shana. Satoum, ça veut dire qu'il n'y a pas d'ouverture. Satoum, c'est de fermer. Dans le texte de la Torah, les textes, les seules ouvertures qu'il y a, c'est ou bien on va à la ligne, c'est un paragraphe, un nouveau paragraphe, ou bien il y a au milieu de la ligne un espace blanc, un espace de 9 lettres qui reste blanc. C'est une façon de donner de la respiration au texte. De toute façon, tout le texte est à entendre comme ça. Il est noir sur blanc. Le blanc, c'est la respiration du noir. Et une lettre qui n'aurait pas de respiration. On supposait que vous écriviez votre Sefer Torah et que vous avez une lettre, un même par exemple, qui est exactement à la limite du klaf. Tout en bas, vous avez le bord du klaf et vous avez la barre du même, par exemple, barre horizontale du même. Ce Sefer Torah n'est pas cachère, parce que la lettre, elle n'est pas entourée de blanc. Les lettres doivent être entourées de blanc. Le blanc, c'est la respiration de ces lettres. C'est-à-dire, si vous savez bien que la Torah, c'est les klalim, donc il faut étendre. S'il n'y a pas de place pour s'étendre, ça ne marche pas. Il y a là, effectivement, la paracha de Vayechi, c'est comme si elle avait, on n'a pas la place de s'étendre. Et Rashi explique pourquoi est-ce qu'elle est fermée. Eh bien, parce que c'est la paracha dans laquelle on relate la ptira de le décès de Yaakov Avinu. Et que, avec la disparition de Yaakov Avinu, les Bnei Israël ont compris que commençait le chiboud, commençait vraiment l'esclavage, en fait. Jusque-là, la présence de Yaakov les a préservés de l'agressivité ou de la mainmise des Égyptiens. Mais là, comme lui disparaît, tous les frères disparaissent, il commence le chiboud. Et ça, on dit, les yeux étaient fermés, ils ne pouvaient plus regarder les choses. Et leurs cœurs aussi se sont fermés à cause du chiboud. C'est une des raisons. C'est-à-dire, le klal Israël est fermé. Et l'autre deuxième raison, dit Rashi, c'est quelque chose qui va être dit un peu plus bas. Yaakov Avinu, à un moment donné, à la fin de sa vie, donc il donne l'ordre à ses enfants de se rassembler auprès de lui. Il avait l'intention, Bikesh le Galot et Taketz. Il a voulu leur dévoiler le moment de la fin de l'histoire. Mais la Shrina s'en est allée et il a compris qu'il ne fallait pas le faire. On reviendra là-dessus. Mais donc, là, c'est donc deux exemples. Un exemple, une raison, c'est le klal Israël est refermé. Puis, il est en train d'étouffer, quoi. Et d'un autre côté, c'est Yaakov Avinu qui est refermé. Il voulait dévoiler. Et Hachem lui a pas permis. Il reste avec le Ketz, il le connaît, mais il ne peut pas le dévoiler. Donc ça, c'est la paracha Stouma. Ensuite, on nous dit que Yaakov Avinu a vécu 17 ans en Mitzrayim. C'était en fait des années très agréables. Il était auprès de Yosef, avec tous ses enfants, tout le monde était là. Il a 17 ans auprès de Yosef, correspond aux 17 ans où Yosef était auprès de lui, depuis sa naissance jusqu'au moment où il a envoyé Yosef voir ce qu'il en était de Hachem, voir ce qu'il en était de ses frères, ce qui a mis en marche toute la tragédie. Ensuite, il y a un drôle de verset. Vayikruvu yemei Israël lamut. Donc là, il a compris qu'il allait mourir. Vayikra livno li Yosef. Il a appelé son fils Yosef, etc. Je vais revenir. Vous voyez le texte, si vous le lisez, vous avez l'impression que c'est les jours qui meurent. Normalement, le verset, il aurait dû dire Israël lamut. C'est pas yemé Israël lamut. Si c'était les jours de Yaakov, d'Israël, qui vont mourir. Donc c'est un peu. La phrase est un peu construite de façon, disons, surprenante. Alors, on peut expliquer, c'est un peu compliqué, mais on peut expliquer un petit peu comment ça fonctionne. C'est la question de la construction de la phrase, c'est une question qui est posée par le Zohar. Le Zohar demande, effectivement, c'est pas on a l'impression que c'est les jours qui vont mourir. Et il répond un peu dans ce sens, il dit que Zohar dit que quand quelqu'un meurt, on amène tous les jours de la vie de cette personne devant Hachem. Et Hachem regarde si ces jours étaient pleins de Avodat Hachem ou non. C'est-à-dire, est-ce que ces jours étaient vraiment vivants? Si les jours vraiment vivants, c'est les jours qui sont remplis d'Avodat Hashem. Si effectivement les jours sont tous remplis, alors les jours eux-mêmes amènent la personne dans l'amaba. C'était ça le niveau de Yaakov Avinu. La mout ici, ça veut dire passer dans l'amaba. Donc les jours de Yaakov l'amènent au Olam Haba. C'est comme ça que le Zohar répond. C'est un peu compliqué. Alors Yaakov demande à Yosef de l'enterrer en Eretz Israël. Il dit surtout ne m'enterre pas en Égypte. Si tu m'enterres en Égypte, les gens vont me diviniser, d'une part. Si tu m'enterres en Égypte, alors, comme il y aura dans les plaies une transformation de la terre qui va être complètement infestée par toutes sortes de petites bestioles, quoi. Alors, ma terre, enfin, mes ossements, mes restes vont subir le même sort et ils ne voulaient pas. Et ils demandent à être enterrés avec ses ancêtres. Pas seulement ne pas être enterré en Égypte, pas seulement être enterré en Eretz Israël, mais être enterré à Maharat Marpella. Alors on verra un peu plus bas ce que ça pose comme problème en fait. Pourquoi est-ce qu'il a demandé à Yosef? Parce que Yosef est le seul à avoir le pouvoir de faire sortir les corps d'Égypte, etc. Le pouvoir que les autres, que les frères n'ont pas, évidemment. Et ce qui est remarquable, c'est que il lui demande de le faire, il le demande de l'enterrer, et il, en fait, il, dans le pasouk, dans le pasouk, il dit, Yaakov dit à Yosef, Imna masatichen be'enecha, simna yadcha atacha tirevi. Donc il y a du na, na ça veut dire s'il te plaît. Donc Yaakov, il est en position de demande. C'est un peu, quand on lit ça, on se dit, mais voilà, c'est un père qui parle à son fils et. On a l'impression que ça, il y a un ton suppliant, si vous voulez, qui est un peu étonnant ici. Mais on va voir pourquoi est-ce qu'il est dans cette position-là. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est que Yaakov va insister pour que Yosef jure. Yosef lui avait répondu, je ferai ce que tu m'as demandé. Mais Yaakov lui dit, mais jure-le-moi. Et il lui dit, non seulement je veux que tu jures, mais je veux que tu jures avec Nekita Trefetz. Ça veut dire en mettant ta main sous ma hanche, exactement comme Abraham Avinu a demandé à Eliezer de faire quand il lui a demandé d'aller chercher une femme pour Yitzhak et de ne pas prendre une cananéenne. Quand quelqu'un jure, c'est pour donner plus de poids à sa parole. D'accord? Dans certaines circonstances, A dit à B, tu me dois 100 balles, et l'autre lui dit non, je ne te dois pas. Comment on fait pour faire... Alors, on peut utiliser un serment. On va demander à l'un de jurer. Dans certains cas, il va falloir jurer. Et s'il jure, alors c'est lui qui gagne. Bon, il y a des dinim. Qu'est-ce que ça, pourquoi jurer? Jurer, ça veut dire, je vais donner du poids à ma parole, un poids supplémentaire. Mais en quoi le mot dire je vais jurer, ishava, shvoa, en quoi ça donne du poids? Ça donne du poids parce que la shvoa, elle ne se fait que en mentionnant le nom divin. On jure, En prenant en quelque sorte à témoin Hachem que ce que je dis est vrai. Et c'est pour ça que cette parole jurée a plus de poids qu'une parole dans laquelle on n'a pas juré. Mais la hiérarchie, elle ne s'arrête pas là. On peut donner encore plus de poids en jurant, par exemple, en jurant et en tenant, au moment où on jure, on tient un Sefer Torah. C'est encore plus de poids. Un objet de mitzvah. Et eux, le seul objet de mitzvah qu'ils avaient, c'était la mila. Quand il lui dit « mets ta main sous ma hanche », ça veut dire « tu fais une shvoa avec nekita trefet », comme on appelle ça, c'est-à-dire où on tient un objet un objet de mitzvah, et c'est ça, c'est le summum de l'engagement. Donc, il demande à son fils de s'engager. Alors, c'est sûr qu'au premier abord, on a l'impression que c'est un manque de confiance. Pourquoi il le fait jurer? Parce que peut-être tu n'auras pas envie ou je ne sais pas quoi, il le fait jurer. Mais je pense que vous savez tous. Que c'est pas pour ça qu'il le fait jurer. Juste pour mémoire, je vous rappelle que quand effectivement Yaakov est niftar et que Yosef a dit à Paro, je vais aller enterrer mon père en Eretz Israël, Paro a dit, pas question. On peut pas laisser partir quelqu'un qui a tous les secrets de l'Égypte dans sa main. Toute l'organisation égyptienne, toute l'économie égyptienne, toute la vie en Égypte est dans la main de Yosef. C'est lui qui a tout le pouvoir. Imaginez, il sort et il s'allie avec des ennemis extérieurs. Ils vont rentrer en Égypte et puis... Donc tu peux pas partir. Alors Yosef lui a dit, mais j'ai juré à mon père. Je suis obligé de tenir ma parole. Alors, Paro lui a dit, j'annule tous tes serments. Paro est susceptible de faire une chose pareille. Et c'est fait. Il a annulé tous les serments. Alors, il faut se souvenir que quand Yosef a été nommé roi, vice-roi d'Égypte, on lui a fait subir un test. Parce que, en Égypte, il y avait une règle qu'un pharaon ou un vice-roi, etc., doit connaître toutes les langues. Bon, Yosef connaissait pas toutes les langues, donc il pouvait pas être nommé vice-roi. Alors, il y a eu un miracle, et on dit le malheur Gabriel lui a appris toutes les langues. Et donc, il a passé le test devant Paro. Il a réussi le test, seulement à la fin de la discussion, Yosef a parlé à Paro en hébreu. Et Paro n'a rien compris. Alors, il s'est aperçu que, en fait, Paro était un usurpateur. Il ne pouvait pas être Paro. Puisqu'il connaissait pas toutes les langues. Alors, Paro a fait jurer à Yosef qu'il ne dévoilerait à personne. Mais maintenant, il venait de le libérer de son serment. Yosef a dit, je suis donc libéré de mon serment de ne dire à personne que tu ne sais pas l'hébreu. C'est-à-dire que tu es personne, tu es un usurpateur. Et il a dit, tu peux aller enterrer ton père. Donc, la raison pour laquelle Yosef l'a fait jurer, Yaakov a fait jurer Yosef, c'est celle-là. Pour que, amener Paro à annuler les vœux, les serments, et donc annuler celui qui permettait, en fait, qui, s'il n'était pas respecté, permettrait à Yosef de dénoncer Paro comme un usurpateur. Parce que c'est la nevoie, enfin, en tout cas. Voilà. C'est comme ça que Yaakov va pouvoir effectivement être enterré en Eretz Israël. Bon. Ensuite, on nous dit, un épisode plus loin, qu'on annonce à Yosef que son père est malade et que voilà, il est en phase terminale. Alors, il a pris ses deux fils, Menaché et Ephraim, et bon, il est allé chez son père, on a averti Yaakov, Yaakov s'est un peu ressaisi, il s'est assis. Alors, Yaakov a dit, commence une espèce de récit à Yosef. Et lui dit, quel chakai, ce nom divin là, s'est dévoilé à moi, à Luz, et m'a béni, et il m'a dit que, voilà, je reste beaucoup de descendants, d'enfants, et tu vas que je vais pouvoir. Hachem m'a dit, tu vas avoir des peuples en descendance, et je donnerai à ta descendance la terre, Israël. Maintenant, alors Yaakov, ayant dit cela, il dit quelque chose d'énorme, complètement énorme. Il dit à son fils, il dit voilà, les deux fils qui te sont nés en Égypte, avant que je ne vienne moi-même, Yaakov, en Égypte, ils sont à moi. Un père qui pique les enfants de son fils. Il les a pris, c'est à moi. Et il dit, ils sont à moi, Ephraim et Menaché seront pour moi comme Reuven et Shimon, comme mes deux premiers fils. Mais et les enfants que tu auras après coup, on les répartira sur leurs deux frères. Certains seront de la tribu d'Ephraïm et d'autres de la tribu de Menaché. Énorme, quoi. Il est en train de déposséder Yosef des deux seuls enfants qu'il a. Ils sont à moi. Alors, en soi, c'est un peu surprenant parce que, bien sûr, on comprend ce qu'il veut faire. Il veut donner une double part à Yosef. Yosef est le fils aîné de Rachel. Il veut lui donner une double part. Alors, au lieu de donner à Yosef une double part de territoire, disons que tous les territoires avaient 100, lui, on n'avait qu'à lui donner 200. 200 kilomètres carrés, 200, peu importe, 200. Le double des autres. C'est comme ça que ça se fait, d'habitude, la double part, c'est ça. Alors, Yaakov, il fait la double part différemment. Il donne à Yosef deux tribus. Mais du coup, il retire Yosef de la liste des tribus. Il n'y a plus de tribus de Yosef. Mais il y a deux tribus, une de Menaché et une de Ephraïm. Maintenant, si on regarde ça, alors les tribus, elles sont au nombre de 13, parce qu'il y a Lévi. Alors, vous savez, par la suite, vous connaissez, quand il y a des recensements, on compte en général la tribu de Lévi à part. Les Levim, les Kohanim, on les compte à part. Ce qui fait qu'on a vraiment 12 tribus qu'on compte. En fait, il y en a 13. Mais il n'y en a que 12 qui auront des territoires, puisque la tribu de Lévi n'a pas de territoire dans le partage de l'Eretz Israël. Les Levim vont avoir des villes, mais sans territoire. Ils n'ont pas de territoire parce que le territoire, ça nécessite d'être travaillé, que ce soit de l'élevage ou de l'agriculture. Et les Levim et les Kohanim, ils sont requis pour le travail du Beth Amikdash, ou du Mishkan. Et donc, ils n'ont pas de temps à consacrer, ou pas seulement de temps, ils n'ont pas à consacrer leur réflexion, etc., à des problèmes liés au territoire. C'est pour ça qu'ils n'ont pas de territoire. Maintenant, on ne nous dit rien. En fait, c'est surprenant quand on réfléchit. Yaakov, il est en train de construire le clan d'Israël de façon un peu bancale. Parce qu'il y a 10 de ses fils et 2 des petits-fils. Il y a des conflits de génération. Bon. Sur quel ton ils vont parler avec leurs oncles? Ephraim et Menaché. C'est leurs oncles, ils sont la génération d'au-dessus, mais c'est les frères de leur père. Ça, visiblement, Yaakov, ça ne le dérange pas. Mais il va faire encore un autre changement. Il l'a déjà fait ici, mais on va en reparler. Maintenant, il continue son discours à Yosef et il commence à lui dire « Va'ani, bevoi mipadan, meta alai Rachel, beretz Kenan, bederech, pardon, beod kivrat eretz, lavo Efrata, ve'gbera sham, bederech Efrat, ilai Bethlehem. » Bethlehem, c'est la fin. Qu'est-ce qu'il lui raconte? Il dit, moi, quand je suis revenu de Padan, c'est-à-dire, je suis revenu de chez Lavan, alors Rachel est morte pour moi, à Laï. Et elle est morte dans le pays de Canaan, mais sur le chemin, et il y avait encore une bande de terre, on n'était pas encore rentré en Eretz Israël. Elle n'est pas morte en Eretz Israël. Elle est morte juste avant. Et je l'ai enterrée aussi sur place, juste avant. Qu'est-ce qu'il lui dit, là? Il est en train de lui dire, écoute, je comprendrai très bien. Ce que je te demande, c'est un peu difficile. Parce que tu te dis que je te demande de m'enterrer en Eretz Israël alors que je ne l'ai pas fait pour ta mère. Alors, ne m'en veuille pas, j'ai pas pu. C'était pas possible, j'ai pas réussi à enterrer ta mère en Eretz Israël. Ne m'en veuille pas et accepte de me faire pour moi ce que j'ai pas fait pour ta mère. Visiblement, Jacob, il a ici une mauvaise conscience. Alors, on regarde un petit peu Rashi. Rashi dit, Bevoi mi Padan. Quand je venais de Padan, je venais de chez Lavan, Padan Aram. Vafalpi sheani matriach alecha lo dicheni li kaver beretz Kenan. Bien que moi, je t'impose un grand travail de me transporter pour m'enterrer en Eretz Kenan. Velokach asiti. Et moi, je n'ai pas fait cela. Leimecha. Je n'ai pas fait ça à ta mère. Sharemeta samouch le Bethlehem. Elle est morte juste à côté de Bethlehem. Mais il y avait encore Kivrat Eretz, c'est-à-dire Midat Eretz, encore une certaine mesure. Ve Malpaï Mama. On était à 2000 amot. Kimidat Trum Shabbat. Que dit vrai Rabbi Moshe Adarshan. Vlotomar sheikvu alai gshamim. J'ai pas d'excuse, c'est pas qu'il y avait tellement de pluie que j'ai pas pu la transporter. Et l'enterrer à Hebron. Pas du tout. La terre, elle était parfaitement bonne. Il n'y avait aucun problème. Mais je ne l'ai pas enterrée. Je ne l'ai même pas transporté à Bethlehem, à Alpaï Mama, 2000 amot, 1 kilomètre. Je sais que tu m'en veux. Mais sache, c'est sur l'ordre d'Hachem que je l'ai enterré là-bas. J'étais les Ezra le Banéa pour qu'elle vienne aider ses enfants, c'est-à-dire que chez Yagle Otam Nevuzradan, au premier. La destruction du premier Beth Amikdash. Ils ont été exilés. Vayu ovrim derasham. Les Bnei Israël qui quittaient Eretz Israël et qui étaient exilés en Babylonie, ils passaient là-bas. il passait par là-bas. Yatsa Rachel al-Kivra. Alors, Rachel va sortir sur sa tombe. Ubocha, elle va pleurer. Vaket Shet Alem Rachamim, elle va prier pour eux. C'est ce qui est marqué. Kol Berama Nishma. On entend une voix à Rama, c'est-à-dire à cet endroit-là. Akadosh Baruch Hu Meshiva. Elle va argumenter avec Hachem. Et Akadosh Baruch Hu va lui répondre, Yesh Sachar le Poulater. Il y a un salaire pour ce que tu as fait quand tu as laissé ta place à Léa. Nous, Hachem. Veshavu Banim Ligvula. Je te promets que les enfants reviendront dans leurs limites, dans leurs frontières. Voilà, il a donc fait un plaidoyer. C'est intéressant parce que, a priori, c'est après que Yosef est déjà juré. Il veut que Yosef fasse les choses de Simcha, si on peut parler comme ça. Pas faire les choses dans la tristesse et avec un ressentiment à l'égard de son père. À ce moment-là, il a vu les enfants de Yosef. Vayomer mi ele. Qui sont ceux-là? Vayomer Yosef el aviv. Yosef a dit à son père, Banaihem, sont mes fils. Asher natan li Elokim baze. Que Elokim m'a donné ici. Alors Yaakov a dit, Kachemna Elai, prends-les, amène-les moi, et je vais les bénir. La question, mi Elai, qui sont-ils? Une question qui est complètement incompréhensible. On a dit au début de la paracha que Yaakov Avinu, ça fait 17 ans qu'il est là. Il est en Mitzrayim. Donc il connaît les enfants de Yosef depuis 17 ans. Les Midrashim disent que tous les jours, il apprenait avec ses petits-enfants. Il apprenait tous les jours. Donc il les connaissait. Qu'est-ce que ça veut dire, Mielé? Qui sont-ils? Ça fait 17 ans que tu les vois tous les jours. Rashi dit, mi ele, mechan yatsu elu, shenan ruim le bracha. D'où viennent-ils ceux-là, qui ne méritent pas de bracha? Je voulais le bénir, mais il a vu que ça ne marchait pas. Alors il demande, mais qu'est-ce qui se passe? Et le Nessif dit, on ne peut même pas dire qu'il demande Mielé parce qu'il ne les voit pas, parce qu'il est quasiment aveugle. Parce qu'on ne l'a pas encore dit, c'est ce qu'on va dire plus bas. Et même à supposer qu'il ne sache pas faire la différence, il ne voit pas clair, il ne sait pas faire la différence entre Ephraïm et Menaché, mais il sait bien qui ils sont tous les deux. C'est pour ça que la dracha, dit le Nessiv, elle vient pour dire que tout à coup, il n'a plus de Ruach HaKodesh. Il n'a plus d'inspiration. Il n'a plus de prophétie. Donc, il ne peut plus les bénir. comme Rashi le dit. Mais le Nesiv dit, en vérité, d'après le Pshat, je dirais comme ça. Ici, Yaakov commence d'amener sur lui, enfin de se mettre en situation de Ruach HaKodesh pour la bracha. Et on le voit parce que jusque-là, c'était Yaakov qui parlait. Et là maintenant, ça va être Israël. Le Sif dit, j'ai déjà expliqué ailleurs, un petit peu, que celui qui veut se mettre dans la situation d'avoir Ruach HaKodesh pour faire une bracha par amour, il doit faire des choses, l'argil ahava amid barech.
Excusez-nous, Rav, mais on ne vous entend plus là. Votre image est figée et on ne vous entend plus.
Et lui non plus.
Toujours rien, Rav, hein, on ne vous entend pas.
On ne sait pas s'il nous entend.
Il te renvoie, il ne bouge pas. Il n'entend pas, c'est sûr.
Mais non, ça n'a rien à voir. L'image est figée, mais peut-être... je sais pas.
Je suis figé aussi. Oui,
oui, oui.